Donc j'ai sobrement intitulé ma communication « Recruter, évaluer et diminuer significativement les troubles des patients, les thérapies cognitives et comportementales et l'épreuve de la guérison ». Je vais rapidement essayer de rappeler les enjeux, parler plus fort déjà. Je vais essayer de rappeler rapidement les enjeux qui sont liés aux thérapies cognitives et comportementales, sans toutefois détailler ce qu'elles sont précisément, puisque je pense que c'est pas tout à fait l'objet. Donc ces thérapies bénéficient depuis une dizaine d'années d'une reconnaissance médiatique, institutionnelle grandissante, et aussi la reconnaissance de patients qui sont de plus en plus attentifs à l'évaluation des thérapies et à la recherche de psychothérapies brèves. D'autre part, leur adoption en milieu hospitalier correspond à une forme d'innovation thérapeutique qui permet notamment par l'application de protocoles précis, faciles à énoncer et à contrôler, d'homogénéiser des pratiques thérapeutiques d'un lieu à un autre et d'optimiser les essais randomisés à l'instar de la médecine d'épreuve. Donc ces thérapies sont supposées faciliter la prise en charge en ambulatoire des patients, permettre une progression rapide vers une éducation thérapeutique et un retour à l'autonomie. Et à ce titre, elles satisfont les contraintes économiques du secteur hospitalier ainsi qu'une certaine politique d'autonomisation des usagers. On peut aussi dire également qu'elles ont bénéficié de l'émergence du développement personnel et de la vulgarisation de l'univers psy dans les médias et qu'elles bénéficient, ce que j'ai pu constater dans mon enquête, d'une certaine légitimité auprès d'organismes de santé publique tels que la Haute Autorité de Santé, les ARS, l'INSERM, la Sécurité sociale et le ministère de la Santé. On sait qu'elles sont également davantage portées par la dominante des neurosciences et que les alliés des TCC se retrouvent notamment autour de l'adéquation d'un format scientifique commun, donc, que j'ai déjà nommé la médecine des preuves, et ainsi que des modes de classification et de preuves qui font consensus tels que le DSM ou encore des dispositifs qui... tels que l'imagerie cérébrale, les tests cognitifs, une définition de la maladie organisée autour de la notion de trouble, le modèle psychosocial et une certaine vision de la maladie mentale comme maladie du cerveau. Le rapport INSERM de 2004 donc, a mis en évidence l'efficacité supérieure de ces thérapies, interrogeait déjà la question de l'évaluation des thérapies comme problématique. Il s'agissait dans ce rapport notamment de dépasser la singularité de la relation thérapeutique au profit d'une approche standardisée du soin. Car la volonté d'évaluer l'efficacité n'allait pas sans envisager la notion de guérison ou d'amélioration des troubles lors des traitements qui étaient prodigués par ces praticiens. Donc l'idée donc, de diminuer significativement les troubles des patients, c'est de pouvoir objectiver des indices qui témoignent sinon d'une guérison, au moins d'une amélioration. Donc pour résumer un petit peu l'enquête que j'ai réalisée, j'ai débuté cette thèse en 2010 sous la direction d'Alexandre Abidé et Nicolas Daudier. C'est donc une communication qui se fonde sur une enquête de terrain réalisée entre 2010 et 2015 en fait, auprès de psychologues et de psychiatres et au sein d'un service de psychiatrie adulte français qui est réputé pratiquer les thérapies cognitives et comportementales. J'ai choisi ensuite d'élargir cet échantillon au milieu libéral. Cela avait pour but de mieux comprendre les enjeux qui étaient liés au cadre d'exercice de l'activité et de saisir aussi des mondes pluriels qui sont organisés autour d'une pratique, puisque je me suis rendu compte au cours de mon enquête que les TCC en milieu hospitalier n'avaient pas grand-chose à voir avec celles qui étaient pratiquées par des praticiens en libéral. Et donc ça m'a permis de voir qu'en fait il y a une homogénéité assez relative et aussi de la définition des TCC qui était quand même assez en question avec des avis assez divergents. Donc en tout, c'est pas 85 mais depuis 95 entretiens qui ont été réalisés lors de plusieurs enquêtes en milieu hospitalier mais aussi en libéral et là je termine les entretiens avec les acteurs de la santé publique, donc Haute Autorité de Santé, Direction Générale. Donc je voulais qu'on voit dans cette communication comment au travers de l'activité des praticiens que j'ai pu interroger en milieu hospitalier se dessine un parcours de soins au sein duquel il s'agit de recruter, d'évaluer et de tenter d'améliorer les troubles des patients pour que ceux-ci recouvrent leur autonomie. Et comment, en ce faisant, les praticiens engagent une certaine conception du soin, du rétablissement et de la guérison, à l'épreuve de la pratique des thérapies cognitives et comportementales. Donc, dans un premier temps, le travail des praticiens va consister à recruter, c'est-à-dire notamment à développer des stratégies préliminaires pour améliorer en amont le pronostic. Donc, c'est un parcours de soins en milieu hospitalier, dans ce que j'ai pu observer, qui se construit autour de la notion de trouble. Je n'aborderai pas aujourd'hui les distinctions fines entre syndrome, maladie mentale, handicap, parce que... ce serait un petit peu long, même si c'est des choses qui reviennent dans mes entretiens. Donc je me résumerai à cette notion de trouble. Donc pour préciser, le service de psychiatrie où j'ai réalisé mon enquête, c'est un service dans lequel il y a un diplôme universitaire de thérapie cognitive et comportementale qui a été créé dans les années 80. Le chef de service qualifie l'orientation du service de médical et se revendique de la psychiatrie biologique et de la psychologie médicale. Le tri qui est réalisé à l'entrée débute comme pour tout patient par un premier entretien, une première consultation qui est réalisée par un psychiatre. Ce psychiatre réalise un diagnostic, soumet le patient à un bilan de santé et l'oriente à travers les arcanes du parcours de soins en fonction de ses besoins et de ses attentes. Le psychiatre revoit le patient tous les 2 mois pour faire le point, c'est-à-dire pour observer des changements éventuels du point de vue du patient et du psychiatre en fonction de ce qui a été préconisé et continue de piloter le parcours du patient. Et cette organisation des soins est censée permettre une meilleure évaluation en collaboration avec le patient de l'évolution du trouble. Et ce patient est orienté vers un suivi psychologique, psychiatrique ou social individualisé, puis progressivement intégré à des groupes. Et il suit le parcours de soins en quelque sorte fléché vers une progressive diminution du trouble et en même temps vers un retour à l'autonomie. Donc recruter des patients, ça consiste à faire entrer le patient dans un dispositif de diagnostic et d'évaluation de soins. Et pourquoi j'ai appelé ça recruter, dans la mesure où on aurait pu parler de sélection, et pourquoi surtout recruter alors même que ce service est censé accueillir tous les patients du secteur? C'est qu'en réalité, il s'agit pour le chef de service d'augmenter la part de patients qui sont triés par pathologie, donc par exemple bipolaire, schizophrène, autiste, troubles mentaux, en comprenant tous les spectres, au détriment des patients qui proviennent du secteur afin d'équilibrer les types de prise en charge et de maintenir ainsi un certain renouvellement de la file active. Ce recrutement se traduit notamment pour le chef de service par un travail de popularisation des spécialités qui sont représentées au sein du service. Le chef de service va réaliser par exemple un travail de publicité, de coopération auprès des médias, des acteurs de la santé mentale, des réseaux locaux, pour faire connaître son unité, les centres experts qui y sont associés, et toucher des patients qui sont parfois éloignés géographiquement, mais qui sont motivés, informés sur leur pathologie. Car ces thérapies brèves seraient censées attirer des nouveaux profils de patients qui seraient plus mobiles et plus à même de bouger pour rebondir, en réalité. Tout en, quand même, en ayant un discours et sûrement, des actes qui visent aussi à faire profiter les patients du secteur de ces innovations thérapeutiques au sein du CHU. Donc, améliorer en amont le pronostic, c'est tenter de saisir un public qui est d'emblée, acquis et motivé et atteint par ailleurs de pathologies plus légères pour équilibrer une file active qui serait composée d'autres patients dont la nature multiple et complexe des problèmes, comme la gravité du trouble, la précarité sociale, les comorbidités associées, les multiples diagnostics posés, tout simplement des carrières plus longues de patients, diminuerait statistiquement le pronostic de guérison et la rapidité de sortie de la file active. Et témoigner ainsi de formes de succès du soin, ça permettrait par la même occasion d'améliorer la visibilité du CHU et de son dynamisme en matière de recherche et d'innovation. Par ailleurs, ces contraintes d'équilibrage de la file active correspondent aux chiffres qui sont valorisés par les institutions pour témoigner du bon fonctionnement d'un service à l'heure actuelle, notamment le ministère de la DGS, la Direction générale de la Santé. Donc des chiffres de type le taux d'occupation des lits, la durée moyenne de séjour cumulé et le renouvellement de la file active. Dans un deuxième temps, donc il va s'agir, une fois qu'on aura recruté, il va s'agir pour les praticiens d'évaluer, à savoir de quantifier l'état initial pour mieux constater l'amélioration. Cette phase d'évaluation de l'état du patient vise dans un premier temps à mesurer son état général afin de lui proposer un suivi adapté. Les praticiens vont utiliser en réalité des termes qui sont en général associés à la médecine somatique, notamment comme les lignes de base. Et ils vont utiliser un outil spécifique qui est l'analyse fonctionnelle et qui est un outil central de la thérapie cognitive et comportementale, de plusieurs modèles, et qui vise à évaluer dès le départ quel est le problème qui est à l'origine des troubles. Mais cette analyse fonctionnelle va servir tout au long de la thérapie de colonne vertébrale pour voir les évolutions de la psychothérapie. La notion d'évaluation est extrêmement présente au cours de la psychothérapie puisqu'elle fait partie des techniques qui visent au patient à apprendre à évaluer son état dans une relation collaborative avec le praticien. Et à auto-évaluer son état d'anxiété, à en objectiver les améliorations, à s'informer sur la maladie et à maintenir la motivation. Il s'agit aux yeux des praticiens dans leur discours de faire travailler le patient. Contrairement, bien sûr, puisque la plupart des entretiens que j'ai réalisés, le discours de défense des TCC était construit en miroir avec la critique de la psychanalyse. Donc les TCC permettent de faire travailler le patient quand la psychanalyse est jugée une approche assez passive qui ne permettrait pas de soigner ni de produire du changement, faute d'adhésion au dispositif, en tout cas une adhésion moindre de la part du patient, contrairement aux TCC qui, par leur approche plus dynamique et collaborative, et cette dimension d'auto-évaluation permettrait une approche plus propre au changement. Les TCC utilisent des panoplies d'exercices pratiques tels que des échelles de cotation pour mesurer l'état ou la motivation du patient. Donc il y a un entretien motivationnel au début de chaque psychothérapie qui vise à évaluer avec le patient la motivation. Ensuite, des échelles de cotation qui sont des mesures effectuées par le patient lui-même, qui viennent notamment de la médecine de la douleur, à savoir sur une échelle de 1 à 5, où placeriez-vous votre anxiété. Et donc ces échelles de cotation côtoient d'autres techniques d'objectivation comme les électrocardiogrammes pour mesurer l'évolution d'une crise d'angoisse par exemple et sa diminution. Aussi donc cette démarche collaborative voulue par les TCC vise à faciliter l'appropriation du parcours de soins à la carte afin que le patient s'y repère par la suite de façon autonome, et donc cela vise aussi à fluidifier et à faire que le patient s'approprie ce parcours de soins. Donc l'efficacité de la thérapie cognitive et comportementale est généralement associée a priori par les praticiens à son caractère protocolisé, et les étapes et la progression de la thérapie seraient plus visibles pour le thérapeute comme pour le patient et construites dans un souci de transparence qui permet au thérapeute d'attester et de valider sa pratique. Pour terminer ce triptyque, l'activité des thérapeutes va consister dans un troisième temps, donc le but sera toujours de réduire le trouble. C'est là où on s'interroge comment on travaille en TCC. Une fois que le diagnostic a été effectué par le psychiatre, le patient est alors étiqueté trouble anxieux, joueur pathologique, trouble bipolaire par exemple, ou bien sûr dans sa formulation atteint de trouble anxieux, joueur pathologique, trouble bipolaire par exemple. Et un traitement pharmacologique peut être prescrit pour stabiliser son humeur et faciliter la prise en charge. Il s'agira alors de débuter la thérapie et de prendre pour objet le trouble identifié et les symptômes qui le caractérisent. Donc dans un premier temps, le thérapeute va se concentrer sur les pensées du patient, isoler celles qui lui paraissent négatives ou erronées. Il va mobiliser différentes techniques lors de la thérapie, telles que la remédiation cognitive ou encore la mise en exposition, qui est l'exemple sûrement le plus connu. Ou pour le cas d'une phobie des araignées, par exemple, on va commencer par discuter d'une araignée, montrer une image d'une araignée, une vidéo, et ensuite faire une mise en exposition in vivo. Et par cette pratique, le thérapeute entend modifier la pensée qui serait à l'origine du comportement. Dans tous les cas, les faire chercher s'énonce toujours comme une amélioration. On va chercher à améliorer l'état du patient, à réduire ou à apaiser les manifestations du trouble, à diminuer le comportement, à lui faire récupérer une vie normale, à l'aider dans la gestion de son quotidien, à le faire aller mieux. Je cite. Il ne s'agit pas d'exhiber des causes forcément profondes. Et finalement, les discours des praticiens valorisent plutôt la rapidité des effets produits, qui sont finalement mesurables de la façon la plus concrète, c'est-à-dire dans l'impact qu'ils ont sur la vie quotidienne de ces patients et sur son retentissement. Qu'est-ce qu'il ressort en fait de ces étapes dans l'activité des praticiens? Est-ce qu'il s'agit dans leur discours de guérir ou d'améliorer? Finalement, ce qu'on retrouve en tout cas pour les praticiens qui travaillent en milieu hospitalier, ça va revenir finalement à relativiser, à défendre les échecs et les succès qui sont les leurs, puisque finalement, dans leur vision de la psychiatrie, la psychothérapie est difficile à mesurer et à valoriser, et la guérison est peu représentative des carrières des patients. C'est pour ça qu'elle est assez peu utilisée, en tout cas la notion de guérison, pour d'autres raisons. C'est pour ça qu'on parle de syndrome notamment. Mais donc la notion de guérison est rarement utilisée comme telle. On va plutôt parler de rétablissement, donc je ne reviendrai pas puisqu'il y a un exposé sur le rétablissement par la suite. C'est aussi parce que la littérature est assez large. La notion de rétablissement est à l'heure actuelle, donc dans la mouvance actuelle de la réhabilitation psychosociale associée à un autre courant théorique. Mais cette vision du rétablissement, en tout cas pour ces praticiens, est plus en accord avec une vision évolutive et multifactorielle de l'amélioration de l'état du patient. Donc les praticiens qui travaillent en milieu hospitalier, comme je le disais, ont tendance à produire ce discours de relativisation des effets de leur travail, dans la mesure où on ne peut envisager de guérison systématique si l'on ne connaît pas les causes et les effets exacts de ce qui est pratiqué. Je cite, « Est-ce qu'on peut parler de maladie alors même qu'on ne connaît pas la cause des troubles? Peut-on engager une guérison sans avoir d'indice objectif pour la démontrer? Existe-t-il des guérisons spontanées? Peut-on se fier à une amélioration soudaine? Comment prévenir la rechute ?» Ces échanges qui révèlent en substance, donc dans des entretiens réalisés, l'identité problématique de la psychiatrie par rapport aux autres disciplines médicales. Donc on retrouve en général des psychiatres d'orientation qui viennent de la psychiatrie biologique, qui voient en la psychiatrie une spécialité médicale comme les autres disciplines somatiques, mais qui a été longtemps dévoyée par l'influence du courant psychanalytique. D'autre part, pour les praticiens issus de la tradition psychanalytique ou de la psychothérapie institutionnelle, la psychiatrie serait une discipline singulière menacée par les contraintes de la quantification et de l'évaluation, de la standardisation et du modèle biomédical en milieu hospitalier. Donc on voit clairement les deux approches qui s'opposent. L'incertitude qui est assez forte dans leur activité, donc dans cette capacité à évaluer la guérison, et donc tantôt valorisée comme une dimension prestigieuse, à savoir que la spécialité psychiatrique serait plus énigmatique que les autres, elle touchera quelque chose qui nous échappe par rapport à l'esprit humain, quand d'autres disciplines somatiques seraient plus mécanistes, plus monotones, et tantôt dévalorisée comme une spécialité qui se caractérise par une absence d'avancée scientifique. Cette ambiguïté est jamais tout à fait résolue par les thérapeutes, car elle associe la valorisation d'une plus grande marge de manœuvre, mais limite dans le même temps l'efficacité du travail effectué, en tout cas sa visibilité. Et d'ailleurs, pour citer une psychologue, nous sommes encore tous des sorciers, ou pour reprendre le chef de service du service où j'étais, nous sommes au Moyen-Âge. Cette relation à l'absence d'avancée scientifique. L'évocation de l'horizon d'incertitude quant aux effets de la psychothérapie sur les patients a pour conséquence de développer une conception relationnelle qui serait opposée à une conception technique du soin et constitue une controverse centrale pour les praticiens. Aussi, certains vont défendre que protocoliser une technique de soin ne consiste pas à la déshumaniser, mais à l'homogénéiser et à la rendre plus efficace, et d'autres construisent un discours très critique à l'égard de la technique prête à l'emploi qui est sollicitée par des praticiens comme des patients à la recherche de solutions miracles. Je vais bientôt donc terminer. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au fur et à mesure de la construction de leur expérience, la plupart des thérapeutes disent se rendre compte que la nature des problèmes des patients est bien souvent trop complexe pour être abordée par une seule psychothérapie, même la plus efficace, et il en résulte pour ces professionnels d'une mise à distance relative des orientations thérapeutiques exclusives, qui passe par la critique de la psychanalyse, mais aussi par la critique des thérapies cognitives et comportementales, qui sont au final à l'épreuve de la réalité, jugée trop protocolisée, trop rigide, et qui présenterait le risque de perdre le patient au profit du cadre. Donc pour terminer sur cette notion d'autonomie, ce qui transparaît en tout cas dans l'idée de la guérison par les TCC, ce serait aller vers une conception qui est à la fois humaniste, en tout cas ce qu'en disent les praticiens, mais qui est aussi une vision fonctionnaliste et managériale du rétablissement, à mon sens, puisque faute d'outils d'évaluation assez fiables ou en tout cas reconnus de tous, postuler le rétablissement pour les praticiens revient à s'en remettre à la parole du patient et à ses attentes. Donc finalement, on va mesurer comment le trouble diminue à des manifestations positives observables. Le patient retrouve par exemple une habileté sociale et professionnelle, il atteste lui-même de l'amélioration de son état, les objectifs fixés au départ ont été atteints ou partiellement atteints, comme la diminution d'un TOC par exemple, autant d'indicateurs qui permettent d'apprécier une amélioration significative. La façon dont les praticiens thématisent l'apport des TCC est toujours solidaire d'une critique des théories psychanalytiques, puisque le couple antinomique TCC-psychanalyse se construit sur des valeurs opposées, où la psychanalyse serait inefficace et inadaptée aux problèmes contemporains, quand les TCC répondraient aux attentes des patients pris dans des contraintes indissociables de l'environnement dans lequel ils sont plongés, eux-mêmes soumis à des logiques du quotidien particulièrement complexes. Du coup, leur capacité à réintégrer une vie sociale et à retrouver un fonctionnement optimal dans la société suffirait dès lors à entamer le processus de rétablissement. Et l'argument principal des praticiens tend à montrer que les TCC ont le mérite d'être pragmatiques et qu'elles visent à améliorer la vie des gens rapidement. Et en ce sens, elle serait plus que la psychanalyse des thérapies tournées vers le patient, qui serait dotée d'un format compatible avec l'investissement de patients désireux d'aller vite, conciliable avec des enjeux contemporains du monde social et plus à même de répondre à leurs attentes. Donc, l'idéal d'autonomie qui se dégage des discours des praticiens ou dans les préceptes de la réhabilitation psychosociale propose une approche relativement en fait fonctionnaliste de la guérison du patient, où le réinvestissement des rôles sociaux, donc le travail en tout premier lieu, aurait pour fonction de le réinsérer progressivement. En ne représentant plus pour ce patient dans le même temps une menace ni un coût pour la société. Et au-delà de la notion de guérison, c'est la nécessité de gestion de la maladie et de gestion de soi qui importe dans le travail du patient à conquérir de nouveau son autonomie, puisqu'il s'agit de dessiner un patient compétent et acteur de la santé mentale. Cette conception du rétablissement engage toutefois de façon spécifique les troubles psychiques vers une réflexion de taille, à savoir est-ce que le travail et l'environnement social ne peuvent pas autant constituer des facteurs de souffrance psychique que de rétablissement. Dès lors, on peut s'interroger sur la fonction d'une psychothérapie qui serait particulièrement tournée vers les besoins du patient, puisque la dimension managériale qui est mise en évidence dans certaines dimensions des TCC interroge sur les compétences du patient à pouvoir être lui-même entrepreneur et gestionnaire de sa santé. Donc, pour reprendre une citation du deuxième psychiatre en particulier, les thérapies cognitives et comportementales sont ainsi plébiscitées par les praticiens comme un outil supplémentaire qui permettra un abord plus aisé du patient en phase avec ses préoccupations et doté d'efficacité pour résoudre certaines contraintes du monde contemporain. Mais paradoxalement, ces contraintes du monde contemporain constitueraient pour partie la, seraient en partie la source de ces troubles. Et c'est pour ça qu'on peut se demander dans quelle mesure cet outil de gestion que peut représenter les TCC ne vient pas légitimer une demande qui est déjà pathologique de vouloir aller vite. Je terminerai donc certes sur cette citation. J'apprends à connaître le patient en cours de route, il faut aller vite. On n'a pas le temps, les gens viennent de loin, ils ne peuvent pas venir 3 heures dans la semaine. Un des plus grands freins aux thérapies actuellement, c'est que les gens ne peuvent pas venir voir leur thérapeute avec régularité. Pour des raisons de flexibilité professionnelle, les gens sont toujours au dernier moment convoqués à des trucs, des changements d'horaire. La plupart des gens, il y a une motivation extrêmement précaire dans les thérapies, ils sont très peu motivés. Ils s'attendent à des solutions toutes faites. Il y a un manque de visibilité en partie lié à la pression professionnelle. Les gens n'ont plus une vie organisée, ils ont une vie complètement désorganisée. Pour bouffer, pour se soigner, c'est hallucinant. Après, on voudrait qu'ils aillent bien, mais ce n'est pas possible. Donc, les TCC, qui semblent ainsi représenter une technique efficace pour tenter de réorganiser des troubles produits par une société elle-même pathologique, suffisent-elles pour autant à entamer une guérison ? C'est alors que les praticiens rappellent souvent à leurs bons souvenirs l'existence d'approches psychothérapeutiques qui défendent un projet plus ambitieux, ou en tout cas peut-être pour ces praticiens plus séduisant, qui viserait par exemple à reconquérir un espace psychique en échappant de manière temporaire à la frénésie du monde.
Merci beaucoup. On a donc une dizaine de minutes pour des échanges.
Alors, en fait, ça se manifeste dans le discours des praticiens qui construit systématiquement, en fait, une approche critique de la psychanalyse et en miroir pour vanter les mérites, en fait, des TCC. Ça va être de dire que le psychanalyste interprète ce que dit le patient et ne garde, on va dire, une longueur d'avance et du coup... que les TCC seraient un outil plus démocratique et plus humaniste dans la mesure où ils mettraient au centre l'interaction, notamment dans un dispositif de face à face avec le fait que le thérapeute parle beaucoup, donne des conseils, etc. Et avec une vision toujours de la psychanalyse qui est celle du divan, de quelque chose de très froid, d'une imposture intellectuelle. Et du coup, la volonté de transparence vise à montrer que il y a une relation d'égalité dans cette interaction entre le patient et le thérapeute qui serait là pour l'aider à, comme petit artisan, à s'occuper de son quotidien quand la psychanalyse viendrait plaquer des théories fumeuses sur des problèmes de patients sans les soigner.
En lisant le premier extrait, c'est hallucinant, en fait, cette psychiatre, elle est en train d'expliquer qu'elle adapte son soin à ce que le patient, ce qu'elle considère que le patient est ou demande. Donc, en fait, elle construit son offre en fonction de la demande. Ça, c'est comme si les patients, de Freud, ils sont jamais arrivés en disant leurs rêves. C'est parce qu'on leur a demandé de raconter leurs rêves qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait raconter les rêves. Bon, voilà, ça c'est un petit commentaire, c'est assez... Et après, moi j'aurais bien aimé que vous nous donniez un petit exemple, un étude de cas, pour voir peut-être que c'est un peu plus complexe. C'est pas, peut-être pas une opposition TCC, psychanalyse. Je pense que du point de vue des patients... et de certains troubles, de certaines pathologies, parce qu'évidemment les TOC, les phobies, c'est un peu l'étiquette ou la marque de fabrique des TCC. Mais voir aussi, je ne sais pas, dans l'itinéraire des patients, c'est une question que je pose, est-ce que dans la phase là, de recrutement, est-ce qu'il y a des patients qui sont arrivés, qui ont expérimenté la cure analytique et puis qui l'ont terminé ou peut-être qui en parallèle vont faire des consultations TCC. Est-ce que le fait de cumuler les deux, est-ce que ça peut être un critère qui va les exclure parce que parce que les psychiatres TCC considèrent que pour vraiment être adhérent, investi, il faut que le patient fasse un choix, en fait. Donc voilà, un peu toutes ces questions d'articulation qui, me semble-t-il, qui finalement, dans la vie des gens, sont un peu plus compliquées, que, un peu plus complexes que d'un côté les TCC, de l'autre la psychanalyse.
Bon, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai... que j'ai pas trop mis en évidence, c'est qu'il y a quand même deux terrains très différents, qui sont celui du libéral et celui de l'hôpital. Là, je traite essentiellement de l'hôpital.
D'accord.
Mais à l'hôpital, de toute façon, c'est des patients qui, en général, sont des cas plus graves. Et finalement, j'ai assez peu eu l'occasion de voir des TCC parce que ça a impliqué que la séance en soit, que le thérapeute soit d'accord. Qu'il y a donc c'était assez délicat d'en voir à l'hôpital. Puis il y avait, en fait, la nature de l'hôpital fait que... il se passe beaucoup de choses, mais il y a peu de thérapie finalement. Il y a tellement d'autres problèmes à gérer que c'est un petit peu la chose qui vient en dernier. Et sur cette idée donc, de cumuler les deux, effectivement, j'ai souvent posé la question. Disons que le discours ambiant, c'est quand même une dévalorisation de la psychanalyse une imposture, en tout cas chez ses praticiens. Souvent parce qu'aussi c'est des gens qui ont fait des études, en tout cas pour les psychologues, qui ont fait des études dans une université qui était d'orientation analytique et qui du coup ont vu les TCC comme une révélation, qui ont vu les thérapies cognitives et comportementales comme une révélation dans leur parcours eux-mêmes et qui du coup sont assez rigides.
Et une révélation parce qu'ils ont eu l'impression de
pouvoir... On leur avait menti pendant toutes leurs études et un jour ils ont découvert la vraie science par rapport à l'école lacanienne.
Mais ils l'ont découvert parce qu'ils l'ont expérimenté pour eux.
Non, parce que ça a commencé parce qu'ils ont lu ou on leur en a parlé.
Non, ma question c'est, est-ce qu'ils ont l'impression de pouvoir plus guérir en utilisant les TCC qu'en étant en position ou est-ce que le choix il s'est fait en amont d'une expérience en tant que thérapeute?
Non.
C'est-à-dire sur la base juste d'une adhésion théorique, en fait.
Mais ils sont pas psychanalystes. Ils sont pas psychanalystes.
Non, mais je sais parce pas, que, pendant leurs études, ils ont peut-être fait un stage, tu vois, comme dans une consultation assez classique, où ils avaient l'impression que le patient, ben, ça bougeait pas, que ça ne sert à rien. Et puis après, je sais pas, un stage en
c'est
consultation
pas parce que ça
TCC.
Pas, ça
on,
bien,
va,
hein.
On va éviter les échanges.
Ouais. Bon, une autre question.
Oui, c'est intéressant. Oui, il se trouve que je suis... pour différentes raisons, entre des gens qui font de la TCC et entre des psychanalystes. Je crois qu'il faut aussi écouter ce que disent ceux qui sont les adeptes de la psychanalyse sur la TCC, pour caricaturer, on va dire que c'est du fascisme, littéralement, et ce qui tranche avec le discours que vous présentez ici, vous dites que c'est effectivement des thérapies qui respectent beaucoup plus la demande du patient, qui favorisent l'autonomie, etc., ce qui est nié par d'autres, hein, je veux dire, mais en même temps, je veux dire, ceux qui font de la TCC vont dire que les psychanalystes, finalement, créer des addictions à la psychanalyse, des gens qui font des 20 ans d'analyse. Mais alors, quelle est, vous direz, il y a deux questions, quelle est la durée finalement, les TCC se présentent comme des thérapies brèves, mais quelle est la durée, enfin, est-ce qu'on connaît finalement au-delà des protocoles remboursés par l'assurance maladie aux États-Unis, c'est
oui,
comme ça.
Oui.
Vous avez tel trouble, vous avez 15 séances
de tests. Ça va bientôt être comme ça en France.
C'est pas encore comme ça en France.
Bientôt.
Donc, quelle est la durée effective avec les migrations, les pérégrinations d'un thérapeute vers l'autre? C'est-à-dire, est-ce que je trouve que ça serait intéressant d'étudier des parcours. Finalement, quelqu'un qui commence la psychanalyse, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Ou quelqu'un qui commence une TCC, est-ce qu'il va finalement finir, vers une psychanalyse? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a une spécificité suivant les pathologies? Dans le discours de la TCC et des TCC, est-ce qu'ils ont l'impression que ça fonctionne de la même façon, je dirais, pour un trouble sexuel ou pour
un état dépressif,
une psychose bipolaire?
Bon, alors du coup, ça me permet de répondre à la question que j'avais abordée partiellement. Oui, j'ai vu des patients. Là, le problème, c'est que c'est toujours entre les deux et que même les chiffres ne nous disent pas grand-chose. Mais sur le fait de choisir d'abord la psychanalyse, ensuite les TCC, j'ai surtout travaillé sur les praticiens, un petit peu sur les patients, mais vu que c'était des patients à l'hôpital, les troubles dont ils étaient atteints ne permettaient pas toujours de... Ils connaissaient déjà pas toujours la notion de TCC, c'était plutôt... Mais ils avaient tout à fait conscience que c'était une méthode différente. Mais du coup, bah, forcément, les psychanalystes... que j'ai rencontré, les rares m'ont dit, ben, moi je récupère les patients avec qui la TCC n'a pas marché, et les gens qui font des TCC me disent, mais les patients me regardent avec des étoiles dans les yeux en me disant mais c'est formidable ce que vous faites, vous êtes un, je parle à un être humain qui m'aide dans ma vie. Donc c'est difficile d'évaluer qui lève plus blanc, comme dirait un des praticiens.
Non, mais c'est peut-être pas ça le...
Et après, par contre, sur la, l'objet des... Alors, sur les pathologies, effectivement, sur les pathologies plus légères, telles que des phobies, peut-être, ou des choses comme ça, les TCC ont l'air, de, en tout cas, du retour des patients, de bien fonctionner. Si tant est, si on, après, on peut très bien prendre des théories qui montrent qu'en fait, ces pathologies n'en étaient pas avant et que c'est des nouvelles thérapies pour des nouvelles pathologies. Il y a quand même une tendance à... avec en tout cas le DSM, à produire un certain type de pathologie qui s'est soignée par cette thérapie-là et une manière de les évaluer. Et j'ai pu voir notamment chez des nouveaux praticiens, des psychiatres au cours de leur première année, qui essayaient de, on va dire, de se faire la main sur certains patients, donc en milieu hospitalier remboursé, essayaient de recruter des patients avec des pathologies légères du type vous avez peur d'être à l'arrière d'une voiture, venez, on fait une thérapie cognitive et comportementale pour eux-mêmes du coup expérimenter sans pas sur des graves, sur un trouble grave. Et j'ai quand même vu un patient donc qui n'arrivait pas à aller à l'université, qui était étudiant. Donc le psychiatre s'est dit bon, super, phobie scolaire. Il a traité ça avec son cadre en se disant comment on traite une phobie scolaire, etc. Et trois semaines après, le patient a fait une tentative de suicide avec les médicaments du thérapeute. Et là, effectivement, le psychiatre m'a dit, bon, j'ai été aveuglée par le cadre en me disant, c'est parfait, ça colle, phobie scolaire, ça existe en TCC, tac, tac, je vais le soigner comme ça, en se rendant compte qu'il avait laissé passer sûrement une pathologie plus grave, qui a peut-être pas de nom, hein, que ce soit dépression, qu'il avait peut-être pas encore évalué, mais en tout cas, au profit d'un cadre peut-être un peu rigide. Donc, est-ce que ça soigne certaines pathologies, en tout cas celles qui sont définies aussi par les neurosciences et le DSM, je pense que...
Bref.
Et donc on est, moi je serais plus d'orientation analytique, mais on est amené à travailler en tout cas avec des enfants dont les parents les amènent aussi en libéral sur des méthodes comportementales. Et c'est vrai que du coup ça s'affronte plus, enfin, encore on est amené nous à composer avec des professionnels avec qui c'est vrai qu'on ne partage pas forcément les mêmes langages, on n'est pas dans les mêmes attentes. Après, moi je ne sais pas si c'est des volontaires, si ça se divise, vu que maintenant c'est les parents hein, qui en tout cas amènent le projet de soins dans le temps, de faire avec une tranchée du soin, plus que de l'enfant finalement, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on a l'impression d'un éclatement et d'aller dans une direction différente, et en même temps, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans l'étape de fonction, qu'on est dans l'étape de faire connaissance, en tout cas, entre les deux sens.
Alors, c'est vrai que, notamment, j'ai en pédopsychiatrie ou tout ce qui est, les TCC sont arrivés en France par les enfants en fait, enfin par les parents, plus sur le versant thérapie comportementale et sur des problèmes de comportement en fait, principalement. Et c'est vrai que je pense que dans des champs qui sont très particuliers, où il y a quand même une forte tradition de psychothérapie institutionnelle, mais en même temps où ces thérapies peuvent s'avérer très intéressantes avec les enfants, il y a des passerelles. Après, ce que j'ai pu observer en tout cas en milieu hospitalier, parce qu'il y a aussi toute une défense, je pense, des neurosciences. Je pense que c'est le CHU qui fait ça aussi, mais les choses étaient quand même assez conflictuelles, notamment parce que il y avait des relations de pouvoir à défendre. Et là, la citation de la psychiatre que j'ai mise, c'est la dernière psychiatre qui avait fait une psychanalyse et qui avait eu une formation du service. Et tous les autres avaient disparu en 10 ans. Donc les oppositions étaient assez fortes. Et effectivement, j'ai vu des psychiatres qui me disaient orienter des patients vers des psychanalystes, mais en disant bien, moi, les gens qui ont envie de raconter leur vie sur un coin de table, c'est pas mon travail. Donc, en résumant un petit peu, quelque part, la relation humaine à ça, parce que les psychiatres en CHU, c'est aussi, à l'heure actuelle, une demande, des gens formés à la psychiatrie biologique, une demande de PHRC assez importante, de lancer des protocoles, etc. Et je pense que la relation humaine n'est pas ce qui est mis au centre, surtout quand on est au début de ces études de psychiatre. C'est des effets collatéraux, mais...
Juste une remarque. Du coup, ça peut être intéressant aussi de voir les parcours des psychiatres, des psys. Pas seulement les parcours des patients, mais aussi des soignants, de voir comment ils évoluent dans leur...
Bah, en général, au début...
faire une cohorte de...
Oui, oui, bah, c'est à peu près ce que j'ai. J'en ai une cinquantaine. En général, pour les psychiatres, c'est toujours le même genre de profil. Il y a des psychiatres qui vont vers la TCC au début de leur carrière en se disant que ça va être simple, ça va leur permettre d'avoir une psychothérapie maniable, efficace, etc. Ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'on ne peut pas vraiment faire tout avec une seule thérapie, même si leur volonté de scientificité aurait voulu que ce soit aussi simple. Et pour ceux qui ont vraiment, malheureusement, ceux qui ont vraiment envie de faire de la psychothérapie, en général, ils partent en libéral, en fait. Donc, ça, c'est aussi les psychiatres qui ont beaucoup de réflexivité sur leur pratique, qui font des TCC très bien, très bien, c'est une forme de jugement, mais en tout cas, qui parlent beaucoup de leur pratique, sont des gens qui sont partis en libéral et qui ont choisi de pratiquer la psychothérapie avec des petits arrangements pratiques, mais ils se sont rendus compte eux-mêmes que...
La réflexivité n'est pas bienvenue.
À l'hôpital, oui, il y a l'institution ne permet pas, en fait.
On va se dire là pour cette première intervention. Si on arrive à tenir le temps, on aura peut-être même quelques minutes à la fin pour faire des questions transversales pour se poser, parce que je pense que c'est un des